tous, tous ceux qui nous rejoignent, qui nous visitent. J'ai le plaisir de voir aussi des visages que je ne connais pas ce matin. Sentez-vous libre aussi de venir à la fin du culte, vous approcher, qu'on puisse se connaître un tout petit peu mieux. Mais sentez-vous les bienvenus. Ça va, vous allez bien? Oui. Vous êtes prêts à entendre la parole de Dieu ce matin? À marcher vers la maturité. Quoi? Oui? Ah, bon. Super. Donc, ce matin, on va continuer ce que j'ai commencé la dernière fois, la semaine dernière, une petite série vers la maturité qui est basée sur l'épître de Jacques. Et en introduction, je vais juste rappeler quelques points que nous avons vus rapidement. Bien sûr, déjà, il s'agit de Jacques, l'auteur c'est Jacques, frère de Jésus ou demi-frère de Jésus. Jacques a commencé par encourager les chrétiens, donc il s'adresse aux chrétiens d'origine juive. Et il a commencé son épître par les encourager à considérer leurs épreuves comme un sujet de joie. Wow, pas mal hein? Il voulait donc les inviter à voir plus loin, à regarder différemment, à comprendre que l'épreuve, elle peut produire quelque chose de positif dans nos vies. Ça que nous avions vu, c'est que l'épreuve conduit à l'endurance, qui à son tour conduit à la maturité. Donc c'est pour cela que Jacques nous encourage à considérer nos épreuves comme des sujets de joie. Soyez heureux face à vos épreuves. Il dit même. Alors j'espère que vous avez pu vous réjouir cette semaine suite à ce message et puis saisir cette vérité. Mais c'est une vérité, c'est pas quelque chose qu'on fabrique, mais c'est une vérité qu'en regardant à ça, en regardant à Jésus, dans l'épreuve, on comprend qu'il y a un chemin qui trace pour nous, il nous amène à quelque part. Donc, au travers de nos épreuves, Dieu veut nous amener à la maturité. On avait vu trois définitions de la maturité qui me semble importante de redire ce matin, c'est l'étape dans laquelle se trouve un organisme qui a atteint son plein développement. C'est l'état des fruits quand ils sont mûrs. Et je crois que c'est assez parlant, j'y reviendrai. Et puis, c'est la caractéristique d'un écosystème ayant atteint un état d'équilibre. Dieu désire nous amener à notre plein développement. Il désire que nous portions du fruit, un fruit qui est mûr, le fruit de l'esprit en nous. Ce fruit de l'esprit, à un moment donné, il faut qu'il soit à maturité. Hein. On ne peut pas juste avoir un arbre sans fruit ou un arbre vert, au fruit vert. La Bible en parle aussi de qu'est-ce qui se passe si un arbre est sans fruit. Et puis je crois aussi que Dieu désire nous amener à l'équilibre, qu'on soit équilibré à tout point de vue. Et dans la suite de son épître, Jacques va toucher à plusieurs sujets qui donc appellent à la maturité, qui sont centraux pour l'Église, pour nous, aujourd'hui, et qui font écho à sept marques d'immaturité spirituelle que j'ai aussi mentionnées. Et donc Jacques, ces marques d'immaturité sont les suivantes, et Jacques va en parler d'une manière ou d'une autre. Il va parler de la jalousie, des rivalités, il parle aussi de l'orgueil. Il parle du péché ou de l'amour du monde, de ce cœur partagé. Il dit, mais des fois, vous aimez encore trop le monde. Il parle aussi de la critique et du jugement, ou de la langue, on va en parler aujourd'hui. Il parle de la persévérance dans la souffrance. Et puis, il parle aussi du besoin des uns des autres. Mais il introduit tout ça, on pourrait dire, au verset 22 du chapitre 1, en disant, mettez en pratique la parole. Mettez en pratique la parole. Ces différentes marques d'immaturité, elles ne peuvent pas être traitées si nous ne sommes pas prêts à mettre la parole en pratique. Donc finalement, le premier pas vers la maturité, c'est de mettre la parole en pratique. Et c'est ce que nous allons donc regarder premièrement ce matin. On va lire ce texte donc, de Jacques, chapitre 1, les versets 22 à 25. Je vous invite à ouvrir votre Bible, qui ont pris votre Bible. Donc Jacques, c'est juste après Hébreux. Puis le verset 22. Mettez la parole en pratique. Ne vous contentez pas de l'écouter en vous abusant vous-même. En effet, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui y demeure, non pas en écoutant pour oublier, mais en mettant en pratique, en faisant œuvre, celui-là sera heureux dans sa pratique même. Alors le titre de mon message, mon premier point, de la théorie à la pratique. Mettre en pratique la parole, c'est un sujet vraiment central chez Jacques. Il avait compris, je crois, des choses qui sont totalement complémentaires à l'enseignement de Paul. Il ne remettait pas du tout en question le fait que nous sommes sauvés par la foi, mais il avait découvert l'impact d'une foi qui se traduit par des actes. Et puis il dira au chapitre 2, verset 18, « Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, par mes œuvres, je te montrerai ma foi. » Comme je l'ai dit la semaine dernière, à l'image du fruit, d'un fruit, on ne peut pas passer d'un état immature à mature. Il y a besoin d'une progression, il y a besoin de grandir. On va tendre à la maturité. Bien sûr que ce fruit de l'esprit va donc grandir en nous. Et la mise en pratique de la parole de Dieu, c'est donc le point de départ. Si on veut arriver à la maturité spirituelle, il faut commencer à un moment donné à marcher. Il faut commencer à mettre cette parole en pratique. On ne peut pas arriver à la maturité sans la mise en pratique de la parole. Je me souviens, lorsque j'avais une quinzaine d'années, j'étais très très motivé à apprendre à conduire. Certainement tous qui êtes là, vous aviez aussi cette motivation. J'avais l'impression que c'était plus grand chez moi, plus fort, je ne sais pas. J'aime beaucoup conduire encore aujourd'hui. En plus, j'habitais dans un petit village où il y avait plus de vaches que d'habitants. Donc, c'était urgent pour moi d'apprendre à conduire. Il faut que je me barre, il faut que je puisse aller plus loin. Il faut que je voie autre chose. Vous savez, il y avait un bus, trois bus dans la journée. Ça m'a évité de rentrer trop tard le soir, hein, parce que tu loupes ton bus, t'es embêté. Enfin voilà, donc j'étais très motivé à apprendre à conduire, et puis je posais des questions, je regardais beaucoup comment mes parents faisaient, et puis j'en étais assez vite arrivé à la conclusion que je savais conduire. C'est sûr, je savais conduire. Mais vous imaginez bien que personne m'a donné mon permis de conduire juste en disant que je savais conduire. Il fallait quand même que je passe à la pratique. C'est logique. Je ne peux pas me contenter de connaître la théorie. C'est la pratique qui a validé ce que je savais déjà. Dire seulement que je savais conduire n'avait donc pas de sens. De la même manière, on ne peut pas penser être arrivé à la maturité sans avoir commencé à pratiquer la parole de Dieu. Ce n'est pas possible. On ne peut pas juste connaître la théorie. On doit la pratiquer. On peut prendre encore l'exemple du vélo. J'aime bien l'exemple du vélo comme exemple de notre vie. Vous savez, le vélo, il y a quelque chose de fondamental, mais ma maman n'a jamais appris à faire du vélo, malheureusement. Hein. Dans les grandes familles, j'ai plusieurs sœurs, c'était la dernière, donc les vélos, c'était pour les grandes. Et puis, j'ai souvent essayé de lui expliquer que, mon père aussi d'ailleurs, je crois que finalement il a laissé tomber, un des principes, c'est de pédaler. Hein. Il faut y aller. Hein, parce que si tu montes sur ton vélo et que tu fais du surplace, tu tombes. Donc pour avoir l'équilibre, il faut être en mouvement. Puis ça me parle. Équilibre. Pour être en mouvement et pour être en équilibre, il faut être en mouvement. Et puis, il faut regarder loin devant. Hein, si tu regardes tes pieds, ça ne va pas non plus. Donc, il faut regarder devant. Et ça me parle pour notre vie. Et je crois que la parole est comme le manuel de vie qui va nous permettre de diriger notre vélo, finalement, au bon endroit. Il va nous amener à la maturité pour qu'on soit un cycliste, permettez-moi l'expression, accompli. Donc on peut tout connaître sur le vélo, de la même manière que je savais tout sur la conduite. On peut tout connaître sur le vélo, vous pouvez connaître les moindres pièces, les pignons, la chaîne, vous pouvez savoir comment il faut graisser votre vélo, comment gonfler vos pneus, etc., etc. Mais à un moment donné, si vous n'êtes jamais monté sur votre vélo, bah vous ne serez jamais un cycliste. Donc pour avancer, pour trouver l'équilibre, il faut se mettre en route, il faut se mettre en pratique. On ne peut pas se satisfaire d'écouter et penser être arrivé à la maturité. On ne peut pas arriver à la maturité sans mise en pratique. Moi, ce que j'avais un peu cette image dans le moment de la louange, finalement, c'est un petit peu comme si Jacques va essayer de nous dire, mais finalement, cette parole, vous ne pouvez pas juste la garder à côté de vous. Vous ne pouvez pas juste la garder sur votre table de nuit, puis vous contenter de la lire. Bien sûr, il y avait la traduction orale, donc là, on parle beaucoup d'écoute, mais nous, aujourd'hui, on lit la parole. Mais ce qu'il essaye de nous dire, c'est que pratiquer la parole, c'est que cette parole, elle doit être là, elle doit être dans notre cœur. Je pense que Audercet pourrait faire un super dessin avec une, je voyais une Bible avec qui flash comme ça dans notre ventre, dans notre cœur là. C'est ça, manger la parole. Mais il faut qu'elle soit vivante en nous, par son esprit évidemment. Il faut comprendre aussi que dans le contexte judéo-chrétien, la connaissance et l'expérience sont inséparables. Mais je crois que c'est vrai, c'est toujours le cas. Mais nous, des fois, dans la vie chrétienne, on sépare ces deux concepts. Mais la réalité, c'est que c'est inséparable. On avait pris ce texte en exemple aussi de Hébreux 5, 13, qui parle du lait. Qui parle du lait, c'était le symbole de l'immaturité, les chrétiens qui sont encore au lait. Il dit ceci, « Or quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faite, pour ceux qui, par l'usage, ont le sens exercé au discernement du bien et du mal. » La nourriture solide est pour ceux qui, en fait, par la pratique, par l'usage, ont le sens exercé du discernement et du bien et du mal. Donc, inversement, le lait est pour ceux qui ne mettent pas en pratique la parole. Il n'y a pas l'expérience, en fait, de la parole. Ils n'ont pas appris par l'usage, par l'expérience de la parole. Ce sont encore des enfants, on pourrait dire des bébés spirituels. Il n'y a pas de mal à être un bébé spirituel, parce qu'on peut juste grandir, d'accord ? Donc on est tous à une étape ou à une autre de notre croissance, et puis on tend vers la maturité. Donc aucun jugement ou quoi que ce soit, on est là où on en est, mais la réalité c'est que Dieu veut nous conduire plus loin, veut nous conduire à cette maturité, à cette stature parfaite de Christ. Donc on ne peut pas connaître sans expérimenter, on ne peut pas grandir en maturité uniquement avec la connaissance. Donc connaître la parole de Dieu en la lisant n'est pas suffisant. Il est nécessaire de la mettre en pratique, de la vivre par l'Esprit en nous. C'est ça qui va faire la différence. Et comme je l'ai dit, Jacques s'adresse à des juifs convertis qui, eux, devaient absolument comprendre qu'écouter la parole ne sauve pas, ne transforme pas. Il leur parle à eux, il faut qu'ils comprennent ça. Et Jésus, il invite à un moment donné des juifs à venir à lui pour recevoir la vie. Et il va leur dire en Jean 5, 39, « Vous scrutez les Écritures parce que vous pensez acquérir par elles la vie éternelle. » Ils scrutent les Écritures, mais Jésus leur dit « Mais il faut venir à moi. » C'est moi qui donne la vie. C'est une histoire relationnelle. Vous pouvez scruter les Écritures, mais moi, je suis la parole. Et puis j'aimerais venir en vous, vivre en vous, demeurer en vous. C'est là la différence. Venez à moi. Donc lire la parole seulement, ça ne sauve pas. Une démarche personnelle est nécessaire. Une relation avec Jésus doit grandir. À un moment donné, on doit lui dire, mais je t'accepte dans ma vie. Comme mon Seigneur, comme mon Sauveur, pardon pour mes erreurs. J'ai saisi ton salut, ton pardon pour ma vie. On a besoin que ce soit une relation concrète, que ça s'incarne en nous, et que ce ne soit pas juste la parole, juste lire comme ça. Et peut-être ce matin, il y a même quelqu'un encore dans ce lieu qui a juste une connaissance théorique de la parole de Dieu. Mais tu n'as jamais dit de ta bouche, tu n'as jamais dit clairement à Jésus, je veux t'inviter dans ma vie. Et ce matin, j'aimerais t'inviter à le faire. On peut prendre du temps ensemble tout à l'heure, tu pourras venir vers moi. pour que ce soit pas, tu ne lises pas la Bible comme un livre. Il y a plein de gens qui ont dit, moi j'ai commencé à lire la Bible comme un livre. Normal, je vais la lire de A à Z. Mais Jésus veut t'inviter à une relation. Et il veut vivre en toi. Tu peux faire cette démarche. Lire la parole, elle transforme si l'on choisit de la mettre en pratique avec l'aide du Saint-Esprit. C'est logique. Sans l'expérimentation de cette relation, cette vie de l'Esprit, alors c'est juste un livre avec de bons principes, mais on ne sera jamais capable de le mettre en pratique. On restera juste à connaître, hein, on peut citer par cœur des versets, mais si ça ne s'incarne pas, il n'y a rien qui se passe. Donc Jacques va comparer celui qui écoute à une personne qui regarde dans le miroir, un beau miroir, et qui, après s'être regardé, oublie aussitôt ce qu'il a vu. Alors, je ne sais pas vous, des fois, ce serait quand même bien pratique, hein ? On se regarde dans le miroir, puis on oublie. Non ? Ça ne vous arrangerait pas ? Moi, ça m'arrangerait quelquefois, quand c'est le temps de partir, et puis que ma femme se regarde vite dans le miroir. Cela, c'est toujours le moment qui va prendre plus de temps. Hein, chérie, je t'aime. Non, mais vous voyez, il y a encore vite un petit truc qu'il faudrait... Hein, voilà, tac, vite un petit coup de maquillage, un truc. Elle a même voulu qu'on ait un miroir pas trop loin de la porte d'entrée, d'ailleurs. Voilà. Mais des fois, là, les hommes, on se dit, ah, ce serait quand même super pratique qu'elle l'oublie tout de suite, comme ça on peut enfin y aller. Surtout le dimanche matin. Mais bon, là, je viens toujours avant, comme ça, j'ai plus de soucis. Mais maintenant, c'est les enfants. Bon, trêve de plaisanterie. Mais en fait, le terme grec ici, il ne parle pas d'un bref regard. Il y en a qui pensent que c'est un bref regard parce que c'est dit immédiatement après, il oublie. Mais le immédiatement, il n'est pas relié au regard qu'on place dans le miroir. C'est en fait une personne qui scrute, une personne qui regarde attentivement de manière à connaître les contours, à connaître les détails, à connaître les recoins, parce qu'on pourrait parler d'un objet ou d'un visage. Donc, quelqu'un qui écoute la parole, c'est quelqu'un qui regarde assez longuement dans le miroir, qui en connaît les détails, qui peut même qui la comprend, la parole. On pourrait dire, c'est connaître ce que Dieu attend de moi, mais ne pas y répondre. Oublier. On ne donne pas suite. Et là, vie de l'esprit ou ne pas vie de l'esprit, c'est possible. Combien de fois l'esprit nous dit quelque chose et puis on ne donne pas suite. On oublie. Ah oui, c'est vrai. Il m'avait dit ça. Donc un homme qui regarde longuement son visage dans un miroir et qui l'oublie directement, bien sûr, à nous, ça paraît complètement illogique. Et moi, pour ne pas juste prendre ma femme, moi, j'aime bien aussi prendre du temps devant le miroir. Parfois, je scrute un peu, tac, hein, et puis finalement, je vais commencer à poser une action, c'est-à-dire je vais me recoiffer, ou je vais me raser, ou je vais remettre mon col en place. Parce que l'action de regarder dans le miroir va me montrer une image de moi qui va m'amener à une action. Alors bien sûr, les enfants, c'est différent. Les parents qui ont des enfants, vous savez que vos enfants se regardent 10 fois dans la glace, mais ils ont toujours du Nutella jusque-là. Ça, c'est une autre histoire. Mais donc, c'est pas normal si je me regarde dans la glace, je vois qu'il faut absolument que je me rase, puis que je repars sans rien faire. C'est illogique, c'est bizarre. Et Jacques, il disait de dire, mais c'est d'autant plus bizarre pour la parole de Dieu. Écouter la vérité et oublier de la mettre en pratique, ne rien faire, ne pas donner réponse, alors qu'on comprend ce que Dieu attend de nous, c'est pas normal, c'est pas logique. Il manque quelque chose. Moi, je ne vais pas me regarder dans le miroir en pensant que c'est un but en soi. Et Jacques, il dit la même chose, mais lire la parole, écouter la parole, ce n'est pas un but en soi. Le désir de Dieu, c'est que nous la pratiquions, sa parole. Et que l'œuvre de l'Esprit en nous, au travers de cette parole, elle nous conduise à la maturité. Il ne nous a pas juste donné la parole pour la lire. Il aimerait que nous la pratiquions. Éphésiens 2:10, en réalité, c'est lui, Dieu, qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Il ne faut pas juste les connaître, il faut les pratiquer. Nous avons été créés pour Dieu, pour mettre en pratique sa parole, faire des œuvres préparées d'avance. Amen. Puis au verset 25, il dit que celui qui plonge les regards dans la parole, il y a une belle promesse là, celui qui plonge, c'est-à-dire celui qui a une recherche intense de la parole, celui qui se penche, en fait c'est se pencher sur, d'accord? Donc là on n'est plus juste à scruter, on est vraiment à se pencher sur, à rechercher, celui qui se plonge dans la parole, celui qui persévère dans cette démarche, celui qui n'oublie pas ce qu'il a trouvé, ce qu'il a lu, celui qu'il a écouté. Et par-dessus tout, celui qui met en pratique cela, il sera heureux dans son activité. Vous désirez tous être heureux, hein ? Ah là là, la recherche du bonheur. Bah, en tout cas, il y a une joie qui est liée à la mise en pratique de la parole de Dieu. Il y a une bénédiction particulière pour celui qui pratique la parole. À quelque part, lorsqu'on ne pratique pas la parole, bah, y a une insatisfaction. On pourrait le dire comme ça, je reste insatisfait. Je ne trouve pas vraiment ma place. Peut-être le sens à ma vie. Et je n'arrive pas, j'avance pas à la maturité. Parce que tout cela va se trouver en Dieu. C'est la parole de Dieu en nous, c'est la vie de l'Esprit en nous qui va nous y amener. Parce qu'il nous a créés pour des œuvres bonnes qui sont appelées à pratiquer. Donc si on est en dehors de ces œuvres bonnes, si on ne pratique pas les œuvres bonnes dont il est question ici, bah, on ne va pas aller là où Dieu nous veut. On ne va pas entrer sur ce chemin de maturité. Je suis heureux lorsque je mets en pratique la parole dans mon quotidien, lorsque je laisse le Saint-Esprit me guider selon sa volonté pour ma vie. Moi, je suis heureux lorsque mes réactions sont empreintes de Jésus, de l'amour de Jésus, lorsque mes paroles sont bénissantes, lorsque j'accueille son jugement, lorsque j'agis avec compassion et justice. Ça procure une joie, parce qu'on met en action, la parole de Dieu. Personnellement, j'ai vraiment ressenti fort sa joie ou son approbation profonde dans ces moments où tu sais que, ben, voilà, il y a des fois des moments où tu sais que tu es juste à la bonne place. Puis c'est ces moments-là où généralement j'ai fait des actes de compassion envers les plus petits de ce monde. Récemment, on a été avec une petite équipe de l'église visiter une association qui s'appelle Perla, qui vient en aide aux prostituées à Lausanne, les différentes villes. Puis on a été là avec quelques personnes. Mais je ne peux pas dire, c'est mon appel, je dois refaire ça aller toutes les semaines. Ce n'est pas ça la question. C'est que quand j'étais là, on met en pratique Matthieu 25. On prend soin de ses plus petits. On a pu prier pour toutes ces femmes, j'ai envie de dire, sauf une telle qui a refusé. On a pu prier, on a pu lui servir du thé, du café, leur donner des habits chauds. Là, dans ces moments-là, tu pratiques la parole, il y a une joie qui est là, comme une approbation. C'est dans ces moments qu'on grandit en maturité. Là, mon regard, il change. Mon regard sur l'autre, il change. Puis mon orgueil tombe. Puis je dépends du Saint-Esprit. Puis on comprend l'amour de Dieu d'une manière tellement, tellement différente. Hein, nous qui semble des fois, il faudrait être tout bien pour être aimé de Dieu. Quand on voit comment Dieu parle à ces femmes, comment Dieu les aime, pas de barrière. Oui, c'est pas bien ce qu'elles font. Oh là là, c'est péché. L'amour de Dieu transcende tellement ça. Il n'attend pas juste la pratique de ce qu'elles font, c'est une chose. Mais il va chercher leur cœur. Puis quand il aura pu les amener plus loin, ben, la pratique, ce qu'elles font qui n'est pas bon, qui n'est pas juste, etc., elles vont pouvoir l'enlever, elles vont pouvoir l'abandonner. Mais Dieu va chercher leur cœur. Puis là, il n'y a pas de barrière pour ça. Mettre en pratique. Jacques a débuté en disant « Heureux êtes-vous dans vos diverses épreuves. Soyez dans la joie, car l'épreuve produit l'endurance. L'endurance conduit à la maturité, à l'âge adulte. » Puis là, il dit que la mise en pratique de la parole de Dieu nous rend heureux dans notre activité, dans notre faire. La mise en action de la parole dans nos vies nous transforme à l'image de Christ. et nous conduit là où Dieu nous veut, au bon endroit et à la maturité. Et je crois vraiment que c'est en mettant cette parole en action dans nos vies qu'on va découvrir vraiment à quoi Dieu nous appelle. Tu ne peux pas attendre de nouveau à côté de ton vélo et dire « Seigneur, tu m'appelles à quoi ?» Tu veux que j'aille où? Il va dire, mais roule, monte sur le vélo. Moi, je vais te diriger. Mais commence, vas-y. Mets en pratique. C'est ça qui va nous amener à devenir des chrétiens adultes et accomplis. Maintenant, le texte ne s'arrête pas là. Et j'aimerais lire la suite avec vous. On va mettre la parole en pratique et veiller à notre langue. D'accord? Parce qu'alors qu'on met la parole en pratique, alors le fruit de l'esprit va grandir en nous, alors ça nous amène à la maturité et ça va nous amener aussi à parler différemment. Et le texte, au verset 26, nous dit « Si quelqu'un croit être un bon chrétien, mais n'est pas maître de sa langue, il se trompe lui-même et sa façon de pratiquer la religion ne vaut rien. » Alors vous êtes peut-être un peu étonné de dire « il y a le mot « religion » quand même ». Dans la Bible. On comprend assez bien ce que l'auteur veut dire. Parce qu'il y a un lien direct avec celui qui écoute et qui ne met pas en pratique. En fait, c'est l'exemple concret ici. Sa pratique spirituelle ne vaut rien, elle est incohérente s'il n'agit pas conformément à ce qu'il dit ou à ce qu'il croit. Donc finalement, si tu penses être un bon chrétien, donc tu dis, c'est celui qui écoute la parole de Dieu, mais que ta langue, elle dit des mots qui ne sont pas bons, qui maudissent, etc. Alors, c'est rien du tout, ça vaut rien. C'est tellement important dans le monde dans lequel nous vivons, la cohérence, elle est de mise. Les gens, ils ne veulent pas de la théorie. Ils désirent aujourd'hui nous voir vivre. Et ils ont raison. Je ne parle pas de légalisme ici. Et Jacques non plus, il ne parle pas de légalisme. Mais de la vie de Christ en nous. Les gens, ils désirent voir la vie de Christ en nous. Ils désirent voir l'application de cette parole, mais pas qui est à côté, mais qui est en nous, la vie de l'Esprit. Il est donc question de notre langue, notre manière de parler, notre manière de dire les choses. Je crois qu'on est tous confrontés à ce que la langue peut dire, est-ce qu'elle peut faire. Peut-être même ce matin, on priait pour ça tout à l'heure, mais c'est vrai, des fois, juste avant de venir, des fois il y a encore des mots, il y a un petit conflit dans la voiture, etc., des mots qui peuvent sortir. On est tous confrontés à ça. Nos propos, je crois qu'ils en disent assez long sur l'état de notre cœur. Tu sais certainement de quoi je veux parler. Mais la bonne nouvelle, comme je l'ai dit, c'est que Jésus est venu changer notre cœur. Il n'est pas venu changer juste notre langue. Mais il est venu, ce qui nous appelle à faire, à vivre cette parole de Dieu. Et dans cette vie-là, il va venir toucher notre langue. Il nous conduit entièrement à la maturité. Mais évidemment que la manière dont on parle, elle révèle notre état, là où on en est, dans ce processus de maturité. Et il est dit, en Jacques 3, 2, « Si quelqu'un ne trébuche pas en parole, c'est un homme mûr, donc mature, un homme adulte, capable de tenir tout son corps en bride. » Alors en disant cela, je crois qu'il nous montre aussi la difficulté. Qui peut prétendre faire toujours preuve de maturité dans ses paroles? En tout cas, moi je ne peux pas. Et puis dans les versets suivants, on va lire maintenant, Jacques nous rend conscient donc de la puissance de la langue. Alors on va lire ensemble Jacques 3, les versets 3 à 12, vous êtes encore là? Super, perdu personne en route. Verset 3, « Comme nous mettons le mort, donc pas la mort, le mort, dans la bouche des chevaux, pour ceux qui font de l'équitation, mais qui, pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons ainsi leur corps tout entier. Voyez aussi les bateaux, même très grands et poussés par des vents impétueux, ils sont conduits par un tout petit gouvernail, là où le pilote le veut. De même, la langue est un petit membre et elle peut se vanter de grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu, c'est le monde de la méchanceté. Ainsi, la langue se trouve parmi nos membres. Elle souille tout notre corps et enflamme le cours de notre existence, étant elle-même enflammée par l'enfer. Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins peuvent être domptées et ont été domptées par l'homme. La langue, en revanche, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut pas maîtriser. Elle est pleine de venin mortel. Par elle, nous bénissons Dieu notre Père, nous adorons Dieu, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Mes frères et sœurs, il ne faut pas que tel soit le cas. Une source fait-elle jaillir par la même ouverture de l'eau douce et de l'eau amère? Un figuier, mes frères et sœurs, peut-il produire des olives ou une vigne, des figues? De même, aucune source ne peut produire de l'eau salée et de l'eau douce. Amen. Des images parlantes, hein? C'est fort. C'est assez même violent. En relisant ce texte, je repensais à un après-midi quartier libre que nous avions fait pour encourager les enfants à faire attention à ce qu'ils allaient dire avec la langue. Et puis à un moment donné, on raconte l'histoire, on le joue, d'un roi qui fait venir son cuisinier puis qui dit j'attends demain des grands invités, des gens importants. Prépare-moi un super repas. Et puis il dit, oui mon roi. Puis voilà qu'il vient présenter ce qu'il va faire à ses invités. Puis là, on arrive, les enfants ils sont choqués, on arrive avec une langue de bœuf bien réelle. Alors, vous imaginez les enfants, hein? Quoi? Une belle langue de bœuf. Et puis le roi il dit, mais quoi? Mais tu te fiches de moi? Une langue. Et puis là, le serviteur, il dit, mais mon roi, mais il n'y a rien de mieux que la langue. La langue, on peut dire des mots d'amour avec la langue. La langue, on peut encourager, on peut élever. Et puis le roi, il dit, oh, bon, d'accord, ben alors fais-nous quelque chose de bon, quoi. Puis le lendemain, il lui dit, bon, demain, j'attends des gens que, j'aime pas trop, quoi. Alors prépare-nous un repas, pas besoin de trop te fouler. Et puis le serviteur revient, puis il présente de la langue. Oh là là, on revient avec la langue. Puis là, il dit, mais vraiment, tu t'exagères. Et puis il dit, mais non, mais avec la langue, on peut maudire. Avec la langue, on peut dire des insultes, on peut détester, etc. Des injures. Donc, avec la langue, finalement, on peut maudire et on peut bénir. Donc, la langue, c'est compliqué. La langue, il faut la dompter parce que avec ce même membre-là, on peut faire deux choses complètement opposées. On peut adorer Dieu, puis on peut maudire les créatures de Dieu, comme le dit le texte. Donc la langue, c'est puissant, c'est ce qui ressort de ce texte. Et si on maîtrise la langue, on maîtrise le corps tout entier. C'est pour ça qu'elle est très importante. Et puis, deuxièmement, qui ressort de ce texte, c'est la perversité de la langue. Donc on peut bénir ou maudire avec cette langue. Par l'image du cheval tenu par son mort ou du bateau dirigé par le gouvernail, donc on comprend cette importance-là. Et puis on comprend donc que nos mots, et vous le savez, ont une portée, ils ont une influence, ils sont importants. Et je crois que ce n'est pas nos mots qui doivent conduire notre corps. Ce n'est pas nos mots qui doivent conduire ou qui doivent dire qui on est. Mais c'est notre esprit renouvelé en Jésus, soumis à Dieu. Jésus dit aussi dans l'évangile de Matthieu que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc ce qui sort de notre bouche reflète l'intérieur de notre cœur. Et si notre cœur il est rempli de colère, il est bien possible qu'au moment d'un petit conflit, tes mots vont te trahir. Donc le constat de Jacques au verset 2, il est légitime. Nous avons tous trébuché une fois ou l'autre en parole. Et je crois qu'on est tous conscients qu'on peut blessés. Mais nous sommes donc appelés à grandir en maturité, à ne pas laisser notre langue diriger notre corps. Lorsqu'on grandit en maturité, notre manière de parler devrait changer. On revient ici à la notion de cohérence. Il ne peut pas avoir deux sources. Il ne peut pas avoir deux sources. Bien sûr que c'est l'œuvre du Saint-Esprit hein, qui va œuvrer en nous, mais c'est aussi à nous de mettre la parole en pratique, de mettre ce mort dans notre bouche afin de diriger notre corps. Vous commencez à me connaître. Moi, je pense que vous ne m'avez pas encore vu énervé. J'espère. Mais en fait, c'est assez rare que je m'énerve. Donc, ce n'est pas vraiment dans un conflit que je vais m'énerver et que des mots vont sortir. Il n'y a pas besoin d'être énervé pour que des mots sortent. Hein, on est d'accord. Des mauvais mots, ils peuvent sortir même en étant très calme. Mais disons qu'en tout cas, ce n'est pas à ce niveau-là mon problème. Mais à un moment donné, dans ma vie, c'était plutôt en fait l'humour. J'avais un humour assez acerbe. On peut penser ça. C'est fou, hein, j'aime toujours beaucoup rire, mais en fait, Dieu a dû corriger des choses dans ma vie. Plein de choses, et il continue, heureusement. Mais souvent, en fait, mon amour était un petit peu sarcastique, comme ça, puis je devais toujours terminer, parce que je voyais la réaction des gens, puis je devais toujours dire, mais je rigole. Je rigole, c'est de l'humour. Et puis, en fait, Dieu m'a repris par rapport à ça, puis il m'a fait prendre conscience que je devais changer. Il m'a demandé de changer ça. Parce qu'avec ça, ben, j'ai blessé des gens. Mais je ne me rendais pas vraiment compte. Hein, mais... Et puis, je suis tombé sur ce proverbe du chapitre 26 qui était vraiment pour moi, qui dit ceci, « Comme un fou furieux qui lance des flèches et la mort, tel est l'homme qui trompe son prochain, puis qui dit, c'était pour plaisanter. » Alors là, je me suis revu, je dis, bah, ah oui, effectivement, c'était pour moi. Il y a des fois des paroles comme ça tellement à propos que... Voilà. Donc, l'humour même. L'humour peut être source de blessures. Donc, attention à notre manière de rigoler. Puis si ça ne fait pas rire les autres, ben, faut peut-être se dire que ce n'est pas drôle. Hein. Autre chose que là, on est tous confrontés, mais aussi on a dû prendre à un moment donné des... Voilà, on a dû mettre le mort à notre bouche. C'est la critique, évidemment. On est tous confrontés à la critique. C'est tellement facile, la critique. Vous avez déjà remarqué certainement que ça devient un sujet de discussion. On ne sait peut-être pas trop quoi se dire. Puis hop, il suffit de critiquer. Et puis là, alors, on s'amuse, hein. Ça va tout seul, on sait quoi se dire, là. Peu importe le sujet, il y a toujours de quoi dire. Et je me souviens que, jeune marié, on a été confrontés à plusieurs fois à ce problème-là, on avait invité un jeune couple, et puis finalement, on a réalisé que bah, la discussion avait vraiment dérivé, quoi. Et puis, vous savez, des fois, je ne sais pas si vous faites pareil, hein, les gens sont partis, on met dans le lave-vaisselle, on fait un peu, on range, et puis, on fait un peu le débriefing, quoi. On fait le débriefing de la soirée. Alors, comment ça s'est passé? Puis là, on n'était pas en paix. On n'était pas, j'ai envie de dire, heureux de cette soirée-là, parce qu'on avait critiqué. Et on a dit, mais on va plus dorénavant se laisser embarquer non plus, on va plus alimenter, on va la prochaine fois, on va mettre ça sur la table, c'est des gens qu'on connaît bien, et puis on va dire, ben nous, on a choisi de plus entrer sur ce terrain-là. On veut plus critiquer. On veut encourager, on veut que nos paroles soient quelque chose de bon. Mais il y a mieux à faire, il y a mieux à se dire. Et puis, on a dû le faire, hein, et puis c'était OK après ça. Et souvent, ben, je vous encourage aussi à le faire, mais c'est vrai, quand on va recevoir des gens, etc., mais on peut prier pour nos discussions. Ben, c'est tellement facile. Mais on veut des temps de qualité. On veut des discussions inspirées de l'esprit. On veut que notre langue reflète ce qu'on vit vraiment, qu'elle soit un instrument de paix et non le contraire. C'est un piège tellement facile. Donc, tout en marchant, tout en allant, vous comprenez que vers la maturité, eh ben, Dieu nous montre des points, comme la langue, à purifier, à transformer, qui veut toucher. Hein, et il souhaite travailler ça en nous. Et puis, ben, à un moment donné, on a le choix d'obéir ou pas, de mettre en pratique, pour choisir de bénir, d'encourager, d'avoir des paroles qui honorent, et non l'inverse. Il y a quelque chose qui est important aussi, c'est que l'ennemi se raffole de la critique parce que finalement, La critique va diviser. La critique, elle blesse et puis elle va diviser. Vous savez que c'est le plus grand des diviseurs, c'est l'ennemi. Donc lui, ce n'est pas si important la blessure, mais ce qui est le plus important, c'est que s'il peut casser l'unité avec la critique, ça, il est content. Ça, il se plaît là-dedans. Il fait pas trop, peu importe hein, les types de relations, que ce soit votre ami chrétienne ou non, que ce soit à votre travail, dans l'église ou dans le couple, ce qu'il veut, c'est la division. Et si vos paroles travaillent à cela, alors il s'en réjouit. Donc on doit prendre conscience de la puissance de nos paroles. Est-ce que nos paroles travaillent à l'unité, là où Dieu nous a placés ? À l'église, dans nos discussions avec nos collègues, avec nos voisins, hein, quand on parle du concierge, la locataire du troisième qui fait trop de bruit, etc. Comment est notre parole ? Quel qu'en soit le contexte, notre bouche peut bénir ou elle peut maudire. Parfois, on a l'impression que notre bouche va plus vite que nos pensées. Peut-être vous avez déjà vécu ça. Hein? Et plus on laisse aller notre bouche, plus les dégâts seront grands. Et puis la critique, elle peut devenir une habitude. Le jugement, ça peut devenir même un passe-temps. Puis les insultes, un défoulement. Qu'il n'en soit pas ainsi, nous dit Jacques. Quel genre de chrétien es-tu ? Est-ce que tes paroles bénissent, encouragent, exhortent ? Est-ce que tes paroles démontrent ta maturité ? Est-ce qu'elles sont cohérentes avec la source de vie qui est en toi ? Et avant de terminer, j'aimerais encore encourager les familles, les couples. Attention aux mots dans vos foyers. Ne tolérez pas l'insulte. Des fois, je suis surpris. Ne tolérez pas d'insulte. Demandez de l'aide si ça va dans tous les sens. Mais que ça ne devienne pas quelque chose de normal. Moi, je vois avec les années, on était très strict et on l'est déjà un peu moins. Des mots qu'on ne disait pas, peut-être qu'on va commencer à les dire. Soyez vigilants. Que vos paroles envers votre époux, votre épouse, amènent l'encouragement, amènent la vie. Vos paroles, on sait très bien que les paroles, quand on dit des paroles à un enfant qui sont cassantes, eh ben, elles marquent bien plus que peut-être à l'âge adulte. On peut prendre du recul et puis dire, ouais, bon, il ne sait pas ce qu'il a dit, il n'a pas fait attention à sa langue, que le Seigneur le pardonne. Mais un enfant, il prend ça pour du tout cuit, hein, et puis ça le marque. Dieu veut faire de nos couples, de nos familles, des équipes fortes. On est une équipe. Il veut nous amener à la maturité pour l'œuvre à laquelle il nous appelle. Donc s'il y a des mots, prenez le temps de demander pardon. Revenez là-dessus. Demandez même à Dieu d'effacer. Dire, ben, Saint-Esprit, j'ai dit quelque chose, mais je ne voulais pas, je regrette, je veux changer. Et puis, Seigneur, je prie que ça ne reste pas dans l'esprit de mon enfant. Viens combler ça. Viens moi en aide dans mes failles. Vous pouvez vivre cela. Amen. Je termine avec ce verset en conclusion. 1 Pierre 3, 9, 10 qui nous dit « Ne rendez pas mal pour mal, ni insulte pour insulte. Au contraire, bénissez, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter une bénédiction. Si en effet quelqu'un veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres de la ruse. » Lorsque nous mettons en pratique la parole, nous grandissons en maturité. Lorsque nous grandissons en maturité, notre manière de parler change. J'aimerais vous inviter à la prière, inclinez vos têtes. Seigneur Jésus. Seigneur, on ne veut pas être de ces auditeurs oublieux, on ne veut pas être ces personnes qui connaissent bien, connaissent même ce que tu attends de nous, mais qui juste après vivons autre chose, vivons autrement. Seigneur, on désire que cette parole, que que tu incarnes, toi qui vis en nous par ton esprit, puisse nous conduire à la maturité. Seigneur, on désire être là où tu nous veux. Aide-nous à la pratiquer. Jour après jour. Merci Saint-Esprit pour ton œuvre. Merci pour ton désir de nous amener plus loin, de nous faire grandir à cette stature parfaite, la stature de Christ. Merci pour le fruit de l'Esprit en nous, que tu désires mûr. Seigneur, je prie que tu encourages chacun dans ce chemin. Seigneur, merci de purifier notre langue. Seigneur, comme Ésaïe, il y a eu cette braise qui est venue toucher sa langue. Tu as purifié sa langue, il a dit « Me voici ». Seigneur, viens purifier nos bouches, nos langues. Seigneur, je te demande une grâce particulière là où nous avons fauté, là où nous avons donné des mots qui ont blessé. Je te demande pardon pour cela, pardon pour mes paroles malveillantes. Mais Seigneur, on peut te faire confiance que tu viens transformer nos vies. Seigneur, je prie aussi pour ta grâce dans nos foyers, dans nos couples. Parfois, là où on s'aime le plus, on peut se blesser le plus. Alors Seigneur, je prie pour ta grâce, pour ta réconciliation, pour cette parole douce qui va calmer la colère. Dans le nom de Jésus, toute la gloire te revienne. Amen.